7h48 minutes, il y a une faible neige qui a commencé à tomber sur la région. On aura là de la faible neige intermittente aujourd'hui. On est à 0 degré, maximum de 3 qu'on va atteindre cet après-midi. Ça se dégage demain matin, un jeudi sous le soleil avec quelques nuages et un maximum de 4. Ensuite, de la neige pour vendredi et samedi. Vendredi, moins 1 degré de neige intermittente. Et au cours des prochains jours, là, on va surveiller les précipitations pour samedi. Sur les routes, Max?
L'accès aux deux ponts, là, je dirais que c'est vraiment pas facile ce matin en direction nord. Capitale-Ouest, c'est bien jamé entre Beau-Royal et Laurentienne. Sur Laurentienne-Sud, par bout, pas facile non plus entre Rue de la Faune et Capitale. Capitale, direction Est, dans le coin là, de Robert-Bourassa, il y a quand même un bon ralentissement. Sur Robert-Bourassa, directement en direction sud vers le boulevard Le Bourgneuf, comme d'habitude, 7 au rouge. Henri-IV-Sud, entre Sainte-Geneviève et Chauveau-Ouest, également ralentissement. En s'en allant vers Shannon, dans le coin de la base militaire de Valcartier, il y a du rouge, tout comme sur la 40 direction Est dans le coin de la courbe de Saint-Augustin de Desmaures. Dans l'actualité, le commissaire aux plaintes du CHU de Québec Université Laval lance une enquête sur les mauvais traitements présumés subis par Jacques Teasdale à l'hôpital de l'Enfant Jésus avant son décès. Une démarche qui fait suite aux allégations rendues publiques par son fils Olivier Teasdale sur Facebook, s'appuyant sur le témoignage anonyme d'un employé de l'établissement. Vous pouvez réécouter l'entretien de d'Olivier Teasdale avec nous hier. Radio-Canada rapporte ce matin que Mark Carney a utilisé un paradis fiscal pour attirer des investisseurs chez Brookfield Asset Management, compagnie de laquelle il a été président. Lui qui s'est retrouvé dans l'embarras hier, d'ailleurs, après avoir confondu la tuerie de Polytechnique avec celle de Concordia et a mal nommé sa candidate Nathalie Provost, une survivante de Polytechnique, en l'appelant Nathalie Pronovo. Et le ministre québécois des Finances, Éric Girard, présenté hier le budget 2025-2026 du gouvernement du Québec, dans lequel on vise toujours un retour à l'équilibre budgétaire pour 2029-2030. Malgré ça, un déficit record de 13,6 milliards est anticipé, mais ça pourrait être pire parce que le gouvernement prend en compte des tarifs américains moyens de 10 % alors qu'on sait qu'il pourrait bien être de 25 %.
Bien, justement, avant la pause, je posais la question, est-ce que dans le budget Girard, on a pensé aux municipalités du Québec? Est-ce qu'on les abandonne plutôt? On va en jaser avec Martin Danfousse, qui est président de l'Union des municipalités du Québec. Monsieur Danfousse, bon matin.
Salut, messieurs.
Merci d'être là. Toujours un plaisir, Monsieur Danfousse.
C'est pareil pour moi.
Je vous lance avec justement la question que vous venez d'entendre dans le budget Girard. Est-ce qu'on a pensé aux municipalités ou on vous a oublié?
Ben, le mot abandonner et oublier, c'est un peu fort, okay. Mais votre introduction est intéressante parce que vous soulevez l'élément majeur de l'annonce du déficit record. Puis quand j'ai entendu ça hier, j'étais à Québec, à l'Assemblée nationale, puis le parallèle que je fais, c'est que le milieu municipal n'a pas le droit de faire de déficit, jamais. C'est dans la réglementation. Puis quand on regarde le provincial puis le fédéral accumuler des déficits records, c'est un peu inquiétant. Partant de ça, l'élément principal, là, le plan québécois en infrastructure, ça, là, c'est le plus gros, une des grosses portions du budget provincial. Ils ont augmenté la dépense d'11 milliards pour un total de 164 milliards de 2025 à 2035. Mais les infrastructures, là, c'est les routes, c'est les ponts, les hôpitaux, les écoles. Donc, c'est des grosses, grosses dépenses. Mais la part municipale, elle, ne cesse de descendre. Donc, on est passé de 7 à 4,3 %. Puis pourtant, les infrastructures publiques, c'est au municipal où on détient 60 % de la responsabilité. Fait que ça, il y a un coup de main, mais malheureusement, toute proportion gardée, c'est une diminution de la contribution, ce qui fait que ça va être encore plus difficile pour le milieu municipal.
Monsieur Danfousse, ça risque d'être autant plus difficile, et corrigez-moi si je me trompe, pour le développement à l'intérieur des villes. Alors qu'on parle de densification du côté du gouvernement, on coupe dans l'argent distribué aux infrastructures. Donc, est-ce que ça va créer des moratoires dans plusieurs villes du Québec, comme on voit présentement, nous, ici, à la Rive-Sud, à Lévis?
Bien, c'est intéressant, puis c'est pas juste à Lévis où on le voit, il y a une dizaine, puis pour l'instant, tant mieux, c'est pas plus que ça, une dizaine de municipalités qui ont annoncé des moratoires de développement, justement à cause de leur capacité d'infrastructure en eau, que ce soit en eau potable ou en eau usée, il faut la traiter, cette eau-là. Bien, il y a des endroits où c'est trop coûteux, les investissements sont trop importants, ils peuvent plus accueillir de nouvelles portes. Puis pourtant, on est dans une crise du logement. Mmh. Puis ce qui est un peu épouvantable, c'est qu'il y a 1,3, messieurs, là, écoutez bien, là, il y a 1,3 milliard de dollars réservés au Québec qui vient du fédéral, mais on n'a pas d'entente encore. Donc l'argent, elle est là, mais elle est gelée. Elle dort à Ottawa.
Ça, c'est épouvantable. Ça fait deux ans. Ça fait deux ans qu'on vous parle, M. Danfoss. Ça fait deux ans qu'il y a toujours de l'argent bloqué entre le fédéral et le provincial.
Parce que la particularité du Québec, ça prend une entente entre Ottawa et Québec avant que l'argent soit décaissé, tandis que dans toutes les autres provinces canadiennes, l'argent part du fédéral au milieu municipal directement. Puis là, on est en élection fédérale, fait que c'est pas demain matin, malheureusement, que ça peut se régler. Fait que l'argent va dormir encore. Puis nous, ben, on a besoin de ça pour construire davantage de logements.
Donc, M. Danfoss, vous n'avez pas espoir que ça se règle pour ce 1,3 milliard. La prochaine fois qu'on va se jaser, en 2025, on va répéter la même chose, puis ça sera toujours une problématique pour le Québec?
En fait, j'ai espoir que ça se règle. Mais on avait espoir que ça se règle avant les élections. Mmh. Mais là, vous l'avez vu, là, ça s'est bousculé avec la démission de M. Trudeau. Fait que malheureusement, ça ne peut pas se faire avant. Mais ils ont l'obligation de s'entendre. Mais quand? Plus on attend, plus on perd des sommes, puis moins on est capable de mettre de nouveaux logements en chantier. Fait que ça, j'ai confiance avec le nouveau parti, peu importe qui sera là. Puis Québec aussi, c'est parce que Ottawa veut imposer des conditions à Québec qu'on ne veut pas. Fait que je comprends qu'il y a un bras de fer qui joue, mais pendant ce temps-là, c'est le municipal qui est perdant.
On jase ce matin avec Martin Danfoss, qui est président de l'Union des municipalités du Québec. Monsieur Danfoss, est-ce que le gouvernement parle des deux côtés de la bouche? On jase et on veut la densité urbaine, mais on ne donne pas les sous pour que ça se réalise?
C'est intéressant parce que je n'irai pas jusque-là. Par contre, où je suis obligé d'aller exactement là, de parler des deux côtés de la bouche, on veut densifier, le milieu municipal est d'accord, Québec le demande, la CMM à Montréal le demande, on est d'accord parce qu'il y a une logique implacable à densifier. Mais quand on arrive dans la construction des écoles primaires et secondaires, on demande encore des grands terrains aux écoles, des grands terrains aux municipales, gratuitement. Le cas de Val-David est épouvantable, puis on ne densifie pas encore. On construit les mêmes écoles comme il y a 30, 40, puis 50 ans. Ça n'a pas de bon sens. Puis il y a plein d'institutions privées. Il y en a à Québec, il y en a partout, où on est sur 4 étages, sur 5 étages. Bien, ce que ça fait, c'est que nos jeunes vont marcher davantage dans les escaliers, mais on va bouffer beaucoup moins de terrain pour permettre d'avoir des plateaux sportifs, puis des espaces où on pourra s'activer le milieu municipal comme le milieu scolaire. Fait que dans ce contexte-là, on parle des deux côtés de la bouche, malheureusement.
Monsieur Danfoss, vous l'avez dit d'entrée de jeu, les municipalités ne peuvent pas faire de déficit, ce que le gouvernement peut faire. Est-ce que vous vous retrouvez à ce moment-là dans une situation perdant-perdant? Je m'explique. Vous êtes obligé d'en prendre davantage sur votre budget pour payer des infrastructures. Vous ne pouvez pas faire de déficit, donc vous devez vous tourner vers le contribuable, hausser vos taxes, et là, vous passez pour le méchant de l'histoire.
Bien, c'est toujours ce qui arrive, puis c'est toujours une gestion qui est très complexe, mais on n'a pas le choix de travailler plus fort pour finaliser nos budgets. Parce qu'avec toutes nos équipes. Donc, dans ce temps-là, c'est soit les services à la population qui sont hypothéqués, des projets d'agrandissement, des projets d'aréna qui sont mis sur la glace. Parce qu'en parlant d'infrastructures sportives, oui, on nous annonce des sommes, 300 millions. Bon, 300 millions, ouais. C'est pas beaucoup, ça part vite.
Puis juste en 2027.
Ben, c'est ça, en fait. On l'annonce aujourd'hui, mais l'argent ne peut être décaissé qu'en 2027. Fait que rien en 2025, analyse des projets et dépôt des projets en 2026, voit des projets retenus, argent décaissé en 2027. Fait que c'est sûr que ça reporte, puis je pense à Gaspé qui attend une aréna depuis longtemps, mais là déjà, ils savent qu'ils n'ont aucune réponse, ni favorable ni négative, pendant deux ans. Fait que c'est sûr que c'est plus tough.
Monsieur Danfoss, un petit peu plus tôt, on jasait du budget Girard avec l'analyste politique pour l'Institut économique de Montréal, Gabriel Gigage. J'ai essayé de terminer la discussion de façon positive par rapport au budget. Je vais essayer de faire la même chose avec vous en vous demandant le point le plus positif des municipalités du Québec dans le budget Girard.
Ben, je vous dirais, j'en retiens trois.
Okay.
Il y a un 250 millions en 26-27 pour les municipalités pour l'entretien de l'amélioration du réseau routier local. Et là, on sort des grands centres parce que il y a pas juste Québec, il y a pas juste Montréal, mais il y a toutes les grandes régions du Québec qui, eux aussi, ont des défis parce que très souvent, c'est des petites communautés, mais les routes sont très longues pour se rendre d'une place à l'autre. Donc, il y a un 250 millions là. Il y a un 94 en lien avec le soutien de notre foresterie. Puis ça, honnêtement, avec l'impact des tarifs potentiels, on a parlé beaucoup d'aluminium, de l'acier, mais le bois d'œuvre aussi. Donc, ça, c'est un élément qui est important pour nos régions parce qu'on a, il y a une partie de la business québécoise qui est en lien direct avec tout ce qui se passe avec la foresterie. Il faut continuer à les soutenir. Il y a un 228 millions sur trois ans pour les loyers à prix modique, un 175 millions, malheureusement, sur cinq ans, pour rehausser le soutien à l'hébergement de personnes vulnérables. On parle d'itinérance, ça n'a pas ralenti ça, malheureusement. Les sommes additionnées, parce qu'il y en a eu des sommes additionnelles, sont loin de la progression de ce qu'on vit en itinérance, fait que malheureusement, le problème croît davantage.
Martin Danfousse, président de l'Union des municipalités du Québec. Monsieur Danfousse, vous le savez, toujours un plaisir lorsqu'on jase à Rage Against le matin. Merci pour votre temps.
Merci, à la prochaine.
À très bientôt.
Salut.
Bye.
Toujours super intéressant,
toujours intéressant.
Le point de vue des municipalités avec le président Martin Danfousse.
Moi, j'en revenais pas hier quand j'ai lu, OK, 300 millions pour les infrastructures sportives et récréatives, puis ça inclut celles de plein air, là. Là, je me disais, ouais, c'est pas beaucoup. Je regarde, ça débute en 2027. Ouais. Alors, je me disais, OK, puis là, il a nommé l'exemple de Gaspé, qui est un excellent exemple. Je vais te nommer Lévis. Ça fait deux fois ce programme d'infrastructure-là qu'ils déposent leur projet d'agrandissement de l'aréna pour en faire une deuxième glace. Ils sont refusés. Alors là, ça ira pas avant 2027. Je peux bien croire qu'il y a un moratoire sur la construction à Lévis.
Mais...
il y a quand même un 2000 nouvelles portes à chaque année qui va se construire. On est déjà en manque d'infrastructures. Ce manque-là va être encore plus criant. Et là, lorsqu'on va arriver en 2027, on va ouvrir le programme. Lévis va déposer. La réponse va arriver juste à la fin 2027. Va falloir que Lévis en finance une bonne partie. Alors, ça revient à qui à payer tout ça? Le contribuable, avec les taxes puis les impôts et tout ça, sur des biens communs qu'on devrait avoir avec justement les taxes et les impôts qu'on paie en très grande partie.
Oui, les services qu'on devrait avoir.
Ben oui, ça fait partie des services qu'on devrait avoir, le loisir, la santé, l'éducation. Je regardais, puis justement, on questionnera le ministre Girard tout à l'heure là-dessus, mais je regardais dans le plan quinquennal d'immobilisation, c'est énormément de milliards, là, plus de 10 milliards de dollars, et il y a 65 % qui sont réservés à la réfection de nos immeubles. Fait que ça veut dire que nos hôpitaux sont en train de tomber. Nos écoles sont en train de tomber. On en met juste, puis là, je disais une dizaine de milliards. C'est pas vrai, c'est centaines de milliards. On en met juste 35 % pour construire des nouveaux établissements. Max, à chaque semaine, nous raconte comment il manque d'écoles.
Ouais.
Bien, juste 35 % des nouvelles écoles, parce qu'on n'a pas le choix. Faut rénover celles qui sont là, ils tiennent plus debout.
Ouais. Aïe, aïe, aïe. OK. On a analysé le budget Girard avec Gabriel Giguère. On vient de le faire avec Martin Danfousse aussi. 8h45, on va parler avec le ministre des Finances du gouvernement du Québec, Éric Girard. On s'arrête.